les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Il rêvait de sa propre postérité. Il ne vivait que pour sa postérité, peut-être. Mais le temps passe et cela n'assure pas à tout prix, on s'en doute, la postérité. Gabriel D'Annunzio, un gesticulateur, un poète vieillot, un poseur, un pitre aux engagements plus que douteux. Gabriel D'Annunzio, sujet d'étude d'une nuit magnétique, proposée par Jean-François Bory et réalisée par Pamela Dousseau. Première diffusion sur France Culture le 2 février 1983.
Bonsoir. Gabriel D'Annunzio, Gabriel D'Annunzio, Gabriel D'Annunzio, Gabriel D'Annunzio. Depuis toujours, la littérature a un peu servi de cénotaphe aux aventuriers. Marco Polo, Giacomo Casanova, Burton, le traducteur des Mille et Une Nuits, Lord Byron, Rimbaud même, d'une certaine manière, qui voulait changer la vie et ne fit que vivre la sienne à l'envers. Et déjà, un peu plus près de nous, Laurence d'Arabie, Alexandra David-Neill, Ernst von Salomon et même Malraux. Tous sont partis de l'extérieur pour finalement, comme s'ils étaient déçus par leur contact avec le réel, se mettre à revenir vers la littérature qui serait un peu la main douce posée sur le front du guerrier. D'Annunzio a fait le contraire. C'est cela qui est curieux. Il s'est compromis. Il a été extrêmement célèbre. Il a fait un peu le tour complet de la roue. En 1910, toutes les familles petites bourgeoises en Italie avaient quelqu'un dans sa famille de D'Annunziens qui scandait des vers de ce qu'on appelait là-bas le poète. Il se faisait appeler le poète. Et il y parvenait. Il eut ensuite une attitude plus compliquée, le temps s'est mal posé, il est devenu belliciste, puis a participé à Mussolini, aux activités de Mussolini. Mais revenons un peu en arrière. D'une immarcessible infatuation, mais aussi sans doute, à chaque instant pris de crainte et d'angoisse, en forme de gouffre, Gabriel D'Annunzio fut dans son époque un personnage coruscant des plus extravagants. Bourré d'affectations et de bizarreries insensées, d'une insolence héroïque qui retombe fréquemment en fantaisie saugrenue, poète sublime et déplorable, héros en trompe-l'œil, Saint Jean du fascisme selon le titre d'un livre que lui consacre de son vivant un certain Amiante, confère Mercure de France 1934, ses égarements politiques attirent le mépris. Sa gloire de plâtre, ses attitudes carnavalesques attisent la tendresse. Du rapport de l'artiste au pouvoir, il est sans doute moins caricatural qu'on ne veut, par bien-être, le prétendre. Hélas, toute l'énorme gesticulation de D'Annunzio vers la postérité ne lui fournira que bien peu d'ombre portée. Il est vrai qu'après lui arrivent des paroissiens, Hemingway, Malraux, passés autrement maîtres dans l'art des questions qui n'existent que le temps qu'on se les pose. Mais l'œuvre dans tout cela, près de 36 romans, autant de pièces de théâtre, des livres de poèmes, un journal, ou plutôt une prose en forme de journal, dont une partie seulement a été publiée sous le titre « 100 et 100 et 100 pages » du livre secret de Gabriel D'Annunzio, « Tenter de mourir ». On s'attache facilement à ce dernier livre comme à certains de ses ouvrages en vers. Le reste semble en cendres. Pourtant, l'écriture de D'Annunzio eut sans doute une influence considérable à son époque. Robert de Montesquieu. Il porte en soi son phare dont les lentilles tournent et jouent pour lui seul dans son cerveau ébloui. Marguerite Yourcenar en personne parle aujourd'hui avec émotion de ses d'annunziennes lectures de jeunesse. Et Julien Green, non sans une certaine gêne, note dans son journal, Pléiade, tome 5, page 1405, « Je me gargarisais de ces vers, va, va con la tua forza, che do la forza del mare. Je regrettais que le poète Hulaire, c'est toujours Julien Green qui parle, je regrettais que le poète Hulaire d'un œuf à barbiche, mais si l'on était d'humeur à se gargariser, rien ne valait sa poésie, j'en raffolais par une de ces contradictions qui ne s'analysent pas bien. » Jules Renard, par contre, au jugement sûr et jaloux, pose un regard bien plus précis sur le poète à propos de la ville morte. Il dit « C'est de la poésie comme l'on est un métal précieux, par convention. Il y a longtemps que nous ne nous servons plus de ces vieilleries. Il y a quand même une demi-douzaine de belles pages, celle-ci par exemple. C'est comme si tu coupais toutes les roses du monde pour les refuser à qui les désire. » Et plus loin, toujours dans son journal, le journal de Jules Renard, « Sarah Bernard n'est pas constamment bien, mais elle est très d'Annunzio, tout le temps. C'est la femme de ce poète, toujours en dehors de la vérité. Il a fait un choix d'un sujet bien horrible, et il part, et rien ne l'arrête, car il n'y a jamais de contrôle. Il s'imagine qu'un pays est plus beau parce que plus lointain, et qu'une colonne est plus belle ou une statue parce qu'il en manque la moitié. C'est un peu écœurant, et ce n'est pas sorcier. » Bien sûr, chacun est en droit de préférer vivre la vie de Jules Renard à celle de ce déraisonnable D'Annunzio. Ainsi, un jour, D'Annunzio, en écoutant sa maîtresse jouer du piano, fredonne l'air, est pris d'exaltation et marche à reculons. Il bascule soudain et tombe à la renverse par la fenêtre du deuxième étage, fracture du crâne. Malingre et chauve, il traîne tous les cœurs derrière lui. Georges Herelle, son traducteur français, qu'il admire énormément, l'invite à faire une croisière en Grèce. D'Annunzio arrive avec 30 malles, s'installe sur le pont avant du bateau pour lire et ne met pas le pied à terre de tout le voyage. Arthur Hubschmidt, vous êtes l'un des jeunes éditeurs parisiens qui prétend à un certain dynamisme. Vous êtes intéressé à l'avant-garde. Vous avez publié l'œuvre complète de Nadar. Et vous aviez envisagé à un certain moment de publier un livre images et textes à propos de D'Annunzio, si je me souviens bien. Puis vous aviez renoncé.
Oui. Parce que D'Annunzio, c'est, j'ai entendu votre introduction tout à l'heure, c'est quelqu'un qui m'avait repoussé du fait que j'avais toujours ressenti D'Annunzio comme quelqu'un de très vieillot, quelqu'un qui posait énormément, qui était dans un esprit de qui voulait à la fois être écrivain et politicien, qui était, qui avait une ambition qui ne me plaisait pas pour des raisons qu'un éditeur, finalement, il cherche surtout quelqu'un qui soit un bon professionnel, un professionnel de l'écriture et, ou de l'image, ou si c'est un poète de la poésie, peu importe. Et D'Annunzio, lui, refusé à cela, mais il voulait tout. Il avait une ambition globale. La vie doit être tout et inclure tout. Alors, pour le passé, ça veut dire pour un éditeur, pour en faire un livre sur lui, c'était un sujet intéressant parce qu'il fournissait matière à... Alors que, à son époque, il était assez repoussant. Et, enfin, il est difficile de le savoir. Tout au moins, il a aujourd'hui cette image-là. Pourquoi j'y ai renoncé ? Parce que, finalement, c'est ce côté peu moderne, peu contemporain, pas du tout contemporain même, et marginal qui, sans doute, parce que je suis un peu puritain et que mon 68isme s'est refusé à accepter un personnage comme D'Annunzio. Sans doute, est-ce la raison ?
C'est aussi peut-être pour des raisons politiques, parce que vous n'ignorez pas que D'Annunzio a été extrêmement célèbre, qu'il a eu des rues dans toutes les villes d'Italie, que maintenant, je crois, il reste une rue, juste une petite rue à Rome sur D'Annunzio, et que les Italiens ont un peu honte de ce personnage qu'ils ont trop admiré. Mais quand vous dites qu'un écrivain doit être quelqu'un qui convient à l'éditeur, c'est bien sûr une opinion d'éditeur.
Oui.
Il me semble que beaucoup d'écrivains souhaitent, au contraire, avoir un poids dans le monde dans lequel ils vivent.
Pourquoi faire ? Ils doivent faire des livres, ils doivent vivre en principe du produit des livres. On ne leur demande pas d'être politiciens.
Écoutez, c'est toujours ce qu'ils font. Depuis Victor Hugo, de Victor Hugo à Régis Debray, vous avez toujours eu des écrivains qui, fort heureusement, se sont mêlés de la vie politique de leur pays.
Fort heureusement, j'en doute. Ça m'a toujours gêné, même un type comme Reagan, par exemple. Pourquoi ? Ça me gêne qu'il quitte son boulot d'acteur et qu'il devient politicien. C'est toujours une espèce de folie qui... Pourquoi faire ? Ça sert à rien. Les politiciens font ça beaucoup mieux que les hommes de lettres. Et remarquez que Reagan, peut-être en 30 ans d'apprentissage de son milieu de politicien, il l'a peut-être très bien appris et que maintenant c'est un
bon... Pensez-vous que Malraux, en écrivant L'Espoir, aurait dû le faire dans sa chambre ?
Je pense qu'on ne va pas dérouler la dispute sur l'homme d'action tout à fait épisodique et anecdotique qu'a pu être Malraux. Je pense qu'il a effectivement fait beaucoup plus dans ce genre que sur les champs de bataille. Mais enfin, je ne veux pas non plus lui enlever ce qu'il a fait. C'est vrai que je ne veux pas contester son courage. Mais il est certain que Malraux... Je ne conteste pas que Malraux, de même que sans doute Victor Hugo... Et, par exemple, Régis Debray profite de l'actualité qu'ils ont provoquée pour le bien de leur œuvre et, du coup, aussi de leur éditeur. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise affaire en soi.
Vous n'ignorez pas que, quand même, la fonction de l'éditeur est aussi de prendre part à l'œuvre de l'auteur. Vous n'ignorez pas les ennuis qu'a pu avoir de Noël après la guerre, puisqu'il avait publié Céline, et par exemple les ennuis qu'ont pu avoir les éditeurs de Victor Hugo, puisque les éditeurs de Victor Hugo ont toujours publié en étant interdits, puisque presque toute l'œuvre de Victor Hugo s'est déroulée sous le régime du Second Empire.
C'est vrai, oui.
En fait, vous voulez avoir des auteurs qui écrivent des mots tranquillement.
Oui. Tranquillement, oui, tranquillement, c'est vrai, oui, oui, oui. Mais ça n'empêche. Pour revenir à D'Annunzio, vous faisiez allusion tout à l'heure à ses engagements auprès, à côté des fascistes. Et il est certain que ça a beaucoup nuit à sa postérité et que ça nous a beaucoup gênés tous, après la guerre, de savoir que certains, par exemple, le futurisme s'était engagé avec le fascisme et soutenu Mussolini. Néanmoins, on peut dire que le futurisme nous intéresse aujourd'hui beaucoup plus qu'un D'Annunzio. Pourquoi ? Parce que les futuristes étaient des hommes modernes et qui, beaucoup plus qu'un D'Annunzio. D'Annunzio, c'était quelqu'un qui pensait à une espèce de... Ah, carrière individuelle. Il croyait en l'individualité. Il croyait que la force de la volonté personnelle pouvait sortir une vie de la masse, de cette espèce de destin absolument tragique qui nous amène dans la multitude vers un avenir gris, venant d'un passé gris. Alors ça, D'Annunzio n'en voulait pas. Il pensait que, un coup d'épée, de la volonté et beaucoup de bravoure allaient vous sortir de là. Les gens... Après tout, c'est une attitude. Je ne conteste pas que on puisse arriver, grâce à cette attitude, à une certaine actualité, à de la renommée, à de la gloire, et en profiter. C'est une chose. Mais est-ce que, en quoi, maintenant, ça nous intéresse? C'est une aventure individuelle, c'est un fait. Mais je crois que les gens, je reviens au futurisme, qui eux aussi étaient liés au fascisme, et j'avoue bien sûr que ça aurait été peut-être plus clairvoyant pour eux de ne pas se lier avec le fascisme, encore que le fascisme de Mussolini dans les années 20 était peut-être moins... moins virulemment anti-humain que pouvait l'être le fascisme de Hitler dans les années 30, et qu'on pouvait leur trouver quelques excuses. Mais ces futuristes étaient des hommes plus modernes parce qu'ils voyaient une espèce de gloire dans, je ne dis pas l'anonymat, mais dans, ils voyaient plus la gloire de la masse. Je ne parle pas d'un point de vue marxiste, là, mais d'un point de vue esthétique.
Ah, ben justement, l'esthétique, ça intéressait beaucoup D'Annunzio.
Oui, oui, mais uniquement parce qu'il s'en servait, avec beaucoup d'aplomb, d'ailleurs, et beaucoup de talent, pour mieux mettre sa personne dans les lumières, et qui voulait bien se braquer sur sa personne. Autrement dit, il provoquait par des effets de théâtre, bien sûr, les gens, et surtout les gens qui, toujours friands de sensations, tels les journalistes, tels les personnages qui vivent du scandale, ou du scandale, mettons, de l'imprévu. Il les provoquait et il obtenait de bons résultats, c'est vrai. Mais à côté de cela, il a écrit, je ne sais plus, vous avez cité 30 ou une trentaine de romans, d'ouvrages. Oui. Sur ces ouvrages, je crois qu'il n'en subsiste pas beaucoup en France, tout au moins.
Intéressant, effectivement. Mais vous savez, par exemple, André Suarez, qui a été un auteur français fort connu et fort réputé dans l'entre-deux-guerres, qui ne s'est engagé dans rien que dans sa propre écriture, et quelqu'un qui a dû écrire une soixantaine de livres dont il ne reste alors absolument rien, il faut bien le dire.
Mais il ne doit pas avoir beaucoup d'émissions qu'on consacre à M. Suarez. Alors que D'Annunzio, il résiste. Et pourquoi résiste-t-il? À cause de l'écriture? Je ne le crois pas. Je crois que c'est peut-être parce qu'il a écrit aussi, donc il a atteint le statut d'homme de lettres, et que de ce fait, l'histoire littéraire s'y intéresse. Mais il aurait été un aventurier, tout simplement aventurier, sans avoir écrit 30 livres, et simplement peut-être ses mémoires, on s'en occuperait beaucoup moins et on le prendrait pour le pitre qu'il est ou qu'il était.
Mais la question qui se pose, c'est dans la modernité qu'à un certain moment, l'auteur se pose aussi comme l'acteur du monde et intervient à ce niveau-là. Vous, en tant qu'éditeur, il semble que vous preniez une position de retrait comme ça, tout à fait justifiable au niveau de l'industrie et du commerce, mais enfin, je crois qu'en tant qu'éditeur, vous devriez un peu vous engager aussi. Je crois qu'un éditeur, quelqu'un qui met son nom sous une couverture, s'engage à côté de l'auteur à représenter sa pensée dans le monde.
C'est juste, oui. Mais un éditeur, son rôle, c'est de choisir justement les auteurs avec lesquels il veut bien paraître sur la couverture. Et il est certain qu'on peut... Il y a beaucoup d'hésitations. On peut beaucoup hésiter à choisir plutôt un tel qu'un autre. Et un d'annuncio aujourd'hui, de toute façon, je pense, n'aurait aucun intérêt à venir chez moi, parce que moi, je suis un petit éditeur. Je pense que d'annuncio aurait tout intérêt d'aller dans une grande maison où ses ouvrages pourraient atteindre des gros tirages, parce que sinon, pourquoi faire tout ce bruit? Pourquoi éveiller les fureurs de l'actualité, si ce n'est pour vendre des ouvrages? Et un petit éditeur qui n'a pas les structures puissantes pour mettre en place dans toutes les dans toutes les points de vente l'ouvrage, eh ben il ne lui servirait pas à grand chose. Peut-être serait-il d'accord pour éventuellement me donner les poèmes, mais comme tout le monde sait, les poèmes se vendent jamais, se sont jamais vendus.
Séquence. Rentrer à Rome. L'annunzio prononce devant une foule massée sur la place du Pincio et devant la Piazza di Popolo un discours enflammé qui sera pour quelque chose dans l'entrée en guerre de l'Italie. Belliciste, et les futuristes aussi étaient bellicistes, et il faut rappeler que Apollinaire aussi était belliciste. L'annunzio, donc belliciste, s'engage et parvient non sans mal à être muté dans l'aviation. En 1918, il fait un raid d'une audace inouïe sur Vienne, dans un minuscule biplan, Padoue, Vienne et retour, 110 km, 6h40 de vol. Arrivé au-dessus de la ville, il jette des paquets de tracts qu'il a fait imprimer la veille. Sur ces tracts est écrit « Je pourrais vous lâcher des bombes, mais déjà vainqueur, je vous jette des mots », signé Gabriel D'Annunzio. C'est une attitude parfaitement romantique. Séquence. Arthur Hubschmidt, est-ce que vous ne pensez pas que les aventuriers du XXe siècle, Lawrence, Ernst von Salomon, Malraux, ou d'une certaine manière aussi Henri de Montfred, ont été des avatars du romantisme?
Justement, j'ai écouté votre séquence à l'instant et j'ai relevé le mot romantique, une attitude parfaitement romantique au sujet du raid de D'Annunzio. Alors, si romantique, je ne suis pas d'accord avec vous sur ce terme. Le romantisme, ce n'est pas cela quand même. Être romantique à l'origine, qu'est-ce que c'est? C'est une révolte nationale qui a pris ses naissances en Allemagne contre le régime napoléonien en reprenant à son propre, pour lui-même, une bonne partie des acquis de nos hommes du XVIIIe siècle, de nos hommes de Lumière et de la Révolution, et qui, au nom de la Révolution universelle, humaine, prône l'autonomie d'une culture nationale, quelle qu'elle soit. Enfin, ça me semble être beaucoup plus romantique, et ce n'est pas du roman. Alors, le geste gratuit me semble pas en soi-même romantique. Je trouve que le geste de D'Annunzio était un petit peu curieux, parce que ce qu'il dit, vainqueur déjà, pourquoi serait-il vainqueur? Il n'était absolument pas vainqueur de rien. Il a fait un raid, d'accord, mais il n'a gagné aucune bataille, et il a simplement dit, puisque, ou plutôt, en d'autres termes, il s'est dit, puisque de toute façon, je ne peux avoir aucun poids dans cette guerre, je peux au moins faire semblant d'avoir du poids, et comment dire, dans ce cas-là, je survole de si loin toutes les guerres qui peuvent avoir lieu en ce moment, que je les écrase de ma pensée et de ma hauteur avec les mots. Moi, je veux bien, si cela est romantique.
Vous lui refusez tout de même le panache de faire ça, parce que c'est quand même plus...
J'ignore exactement quels étaient les dangers.
Il y avait peu de dangers, étant donné que les empires centraux étaient en plein effondrement en 1918, vous le savez.
Mais pour faire la comparaison avec un Laurence Tarabie, alors là, Laurence Tarabie, c'est quand même autre chose. Laurence Tarabie a formé réellement des armées, même si c'était une petite armée, mais il a quand même réussi à fédérer des Arabes, à les entraîner et à les mener à la bataille. Et cela, me semble-t-il, est tout à fait d'un autre acabit que ce qu'a pu faire un D'Annunzio. Ernst von Salomon, par exemple, est un autre... je suis toujours gêné parce que vous mettez sur un même plan quatre ou cinq personnages qui n'ont pas eu la même action ou le même genre d'action. Et je ne peux pas être d'accord avec cet alignement. Je veux bien éventuellement comparer D'Annunzio et peut-être Ernst von Salomon, mais pas Laurence Tarabie.
Séquence. À la fin de la guerre, D'Annunzio, qui vole sur un hydravion, s'écrase dans l'Adriatique. Il se réveille, il croit qu'il fait nuit, et il touche les ailes de l'hydravion qui sont brûlantes. 4 heures après, on vient le chercher. En fait, il a perdu la vue et il est emmené dans un hôpital. Dans cet hôpital, il va rester 6 mois à écrire les couchers, absolument allongés dans une pièce noire, sur de fines bandelettes que lui tend sa fille. Ces fines bandelettes sont de la largeur d'une ligne. L'un de ses plus beaux livres, qui s'appelle Nocturne, il s'en ressortira en ayant perdu un œil. Séquence. Un fragment de Nocturne par Gabriel D'Annunzio. Cette nuit, le démon prend mon œil enflammé dans la paume de sa main et souffle dessus avec toute la force de ses joues gonflées. Toutes les images s'embrasent. Voici que la bataille lointaine de la Meuse entre dans mon incendie. Les bataillons ivres des terres s'avancent comme ces zones de forêt ardente appelées contre-feu dans ma lande d'exil, pareil à des troupeaux de flammes animales et que je vis pousser en avant dans les résidiers à coups de grands rameaux verts. Ils s'approchent au pas de course, ils grandissent. Je les vois à travers les pieux et les ronces des réseaux. Je distingue une à une les faces des Bavarois convulsés par la fureur et par la terreur. Ils prennent feu comme une poignée d'étoupes. Les charniers deviennent des bûchers. Ils ne se consument pas, ils ne tombent pas en cendres, ils brûlent, lentement, s'enflamment comme la tourbe. Je reste toute la nuit étendu contre les fils barbelés qui défendent la colline. Je compte les cadavres. Ils s'empêtrent dans les broussailles de fer. Ils s'écrasent dans l'entortillement des fils rompus. Ils demeurent suspendus entre deux pics, comme les larrons mal cloués aux croix. Ils se tordent comme des bêtes prises au lac. Ils n'ont pas de paupières, ils n'ont pas de lèvres. Je vois leurs yeux fixes et nus. Je vois leurs dents fixes et nues. Je vois le sang couler dans le bois et sur le fer, se grumeler, noircir, visqueux comme la glu qui empâte les gluaux. Il n'y a pas de rosée. Il n'y a plus d'aube sur le monde. Séquence. Arthur Hubschmidt.
Ça ne me provoque aucun commentaire.
Vient alors pour D'Annunzio, à la fin de 1918, il a plus de 50 ans, les alliés signent un traité de paix qui ne favorise pas l'Italie, puisque l'Italie est entrée en guerre très tard, et une partie de la Vénétie et une partie de ce qui est aujourd'hui la Yougoslavie, qui était revendiquée par les Italiens, ne revient pas à l'Italie. D'Annunzio se révolte. Et avec des personnages de tous bords qu'il appelle les Arditi, les Ardents, qui sont des sortes de soldats, un peu de soldats perdus, de rêveurs et de personnages romantiques, il va s'emparer de la ville de Fiume, qui s'appelle aujourd'hui Rijeka et qui se trouve en Yougoslavie. L'épisode de Fiume est un épisode parfaitement funambulesque, où D'Annunzio, semblable à un héros de Conrad qui s'englurait dans des décors de Fra Zeta, incarne ses rêves les plus insensés, réalisant avant la lettre les agitations de Perkins de la voie royale. Avec quelques débraillés, 2 autoblindés et 15 autocars de location, il se rend maître de la ville de Fiume. L'existence de la principauté de Fiume, bientôt appelée Régence de Carnaro, au lieu de République comme le souhaitaient beaucoup, dura 16 mois, dans une effervescence de chaque jour. Voici le témoignage qu'en donna le poète anglais Osber Sitwell. Au flanc de la colline, le palais, dans un style renaissance éléphantesque, était vaste et carré. Mais à vrai dire, pas assez vaste. Les appartements de D'Annunzio étaient encombrés de plantes vertes dans des cache-pots en plâtre gravés d'ornements byzantins. Au milieu de cette verdure, des soldats déambulaient et des dactylos s'affairaient. Dans une galerie carrée donnant sur la mer se trouvaient les appartements privés sévèrement gardés. Il arrivait au poète d'y rester 18 heures d'affilée sans prendre de nourriture. On ne devait alors le déranger sous aucun prétexte. En réalité, le maître y allait un petit peu trop fort sur la coke. Nous tombions sur une de ces périodes de réflexion et dûmes passer 2 jours d'une incroyable monotonie aux soins du ministre des Affaires étrangères de la République de Fiume, le seul personnage ennuyeux de toute la régence. Le surlendemain, notre entrevue avec D'Annunzio dura 3 quarts d'heure. Le bureau était assez vaste et peu meublé, les murs presque entièrement couverts de bannières. De chaque côté de la fenêtre, 2 saints florentins en bois gravé regardaient d'un œil grand ouvert la mer qui s'assombrissait. Au bureau, le poète, derrière des encriers et une branche de grenadier, la première chose qui me frappa fut sa ressemblance avec Igor Stravinsky. Le poète était couvert de rubans et de médailles, bien qu'il fût ridiculement chauve, borgne, nerveux et épuisé. Dès les premières secondes, son charme agissait. La République italienne, adroitement, attendit que les troupes de D'Annunzio s'épuisent sur place et envoyèrent un cuirassé entre le jour de Noël et le jour de l'an 1920 pour reprendre la ville de Fiume et la rendre aux alliés. D'Annunzio rentra en triomphe en Italie. Il avait à peu près terminé sa vie active ou d'agitation. Mussolini, venant de prendre le pouvoir, vient voir D'Annunzio, prend avec lui les Arditi, dont certains vont commencer à devenir les faisceaux, et met D'Annunzio, qu'il considère comme un personnage dangereux, dans une résidence dorée à Gardone Riviera. D'Annunzio s'installe dans une villa somptueuse où il demande une garde personnelle, on lui donne tout ce qu'il veut, il veut le piano de Wagner, il se retire là avec des amis. Le bateau, l'un des bateaux qui lui avait servi aussi à prendre par mer Fiume, est démonté. Et on peut voir maintenant, en allant à Gardone Riviera, une espèce de très curieuse propriété où il y a un bateau de guerre qui est en pleine terre, ainsi qu'un sous-marin, l'aéroplane avec lequel D'Annunzio fit son raid sur Vienne, et une maison chargée de quantités d'objets aussi bien kitsch que de rapines très précieuses, ainsi qu'une bibliothèque renaissance italienne, où pendant les 20 dernières années de sa vie, le poète vécut. Photographie. À Naples et à Francavilla. Après une première parenthèse dans les Abruzzes, D'Annunzio, séparé de sa femme, se rend à Naples, où il connaît Maria Gravida, qui s'unit à lui et lui donne une fille, Renata. Il écrit « Le début des Nocturnes ». Renata, morte l'année dernière, a demandé à obtenir d'être enterrée dans le Vittorial en 1894. Avec sa nouvelle compagne, il retourne à Francavilla en 1895. Il accomplit sur un yacht l'Edouard Scafolio « Un voyage en Grèce », duquel naîtra Laus Vita, sa célébrité est déjà internationale. Il s'abandonne à la politique et en 1897, il est élu député d'Ortona. Dans cette période commence sa relation avec Eleonora Duse. Séquence 723. Jacques Donghy est dans le studio. Jacques Donghy est historien d'art, poète, écrivain. Il s'attache énormément au rapport que peut avoir l'avant-garde avec certains personnages historique qui, par leur attitude, rappelle actuellement l'art corporel. Il y a aussi dans le studio Nicolas Lescanf, qui prépare une bande dessinée sur D'Annunzio, un peu dans l'esprit de ce qu'on a fait avec les Corto Maltese. Jacques Donghi, nous en étions là, nous avions raconté un peu la vie de D'Annunzio, et D'Annunzio écrit, il écrit beaucoup sur les femmes. Et dans son livre « Cento e cento e cento pagine del libro segreto » de Gabriel D'Annunzio, « Tentato di morire », il parle avec une sorte de mélancolie fanée de ses rencontres avec les femmes. On peut rappeler que ça a été l'amant de la douce qu'il a rapidement trahi pour Sarah Bernhardt, parce que Sarah Bernhardt avait plus de succès et jouait ses pièces à Paris. Un fragment de 100 pages du livre secret de D'Annunzio. Trois coupes de cordon rouge, l'ivresse pareille à l'hallucination, note pour la figure de cire. La dépêche était là, bleue, un morceau de papier bleu, quelque chose de plus précieux qu'un émail bleu, qu'une faïence bleue de Perse, quelque chose de profond et de riche et de pesant dans la main, enfin, une parole de la lointaine. Je me rappelle. On devait aller à Neuilly, chez le sculpteur Brutal, là-bas, dans un petit chemin qui longe un mur recouvert de verdure entre des jasmins rares, dont une seule fleur, en cette heure d'amour et de songe solitaire, dont une seule fleur me semblait parfumer le monde. Elle me dit, d'abord nous irons chez quelqu'un qui vend des choses très étranges et peut-être belles. Sans sourire, sans me sourire. Elle était habillée de blanc, avec un chapeau étroit de velours noir, à de hautes plumes noires, qui avait quelque chose d'un défi, comme un large couteau levé contre le ciel. Elle tenait en laisse son lévrier blanc, une bête triste, qui paraissait souffrir de devoir vivre et marcher. Un lévrier détaché d'une très vieille armoire, rendu vivant par je ne sais quel sortilège, et condamné à vivre et à marcher. Nous passons, puis nous partons. Elle est intangible comme la neige de la cime. Je souffre de la voir là dans cette automobile médiocre. Elle est exposée à toutes les tâches, et il me semble qu'elles doivent mourir à la première tâche, comme l'hermine de la fable. Tout est irréel, douloureux, désespéré et divin. Dans les espaces de l'âme, on part ainsi pour la dernière volupté, pour la mort préméditée, pour une conquête inavouable, pour une honte sublime, pour se retrouver soi-même au fond d'un jardin futur. Elle est toute blanche, elle porte son chapeau avec je ne sais quelle ombre de gaucherie. En vérité, son corps est terminé par sa tête. Sa tête est le sommet de son corps et de son âme. Tout ce qui est au-dessus de sa tête est superflu, inutile, inquiétant. Excepté un diadème, hormis une couronne, ou deux ailes, ou la pensée de moi.
En fait, on pourrait, au niveau de la sensibilité, comparer D'Annunzio effectivement à Proust ou à Thomas Mann. Thomas Mann peut-être parce que cela se passe dans cette région de la Middle Europa, Trieste, Venise et Vienne également, la Suisse.
Je n'aime point ce chapeau, cette haute plume. Je regarde son visage, je bois le blanc de ses yeux et cette sorte de poudre ardente qui est comme du pollen sur sa peau aride. Il n'y a pas de monde dans les rues, pour moi. Il y a de la pierre, des lignes de pierre grise, des lignes coupantes, rien d'autre. Pas d'homme, pas de bête, de la pierre dure et muette, toute seule. La voiture s'arrête comme à la limite de je ne sais quelle désolation. Le lévrier fait un bond comme un oiseau hors de la cage pour s'envoler. Il y a le marchepied vide, un magasin fermé, des portes barrées, une étrange chaleur comme sur le quai d'un port, sur une mer chaude et huileuse. Elle dit, il y a quelqu'un qui vend des merveilles de l'Extrême-Orient. Ah, on remonte dans la voiture, je ne sais pas pourquoi. Derrière les devantures fermées, je vois des merveilles bleues, des trésors bleus, des concrétions d'azur, des pâtes, des verreries, des pierreries bleues. Pourquoi donc le papier de ce télégramme me rappelle-t-il toutes les choses que je n'ai pas vues? Elle dit, Corée vous aime, venez. Elle dit, Corée se meurt de vous, venez vite. Elle dit, Corée est morte d'amour et de désir, venez la faire revivre. Non. Elle dit, venez si vous l'aimez. C'est un peu des esseintes.
Oui. Il y a aussi cette ce récit de la première rencontre avec Alexandra di Rudini, marquise Carlotta Ligarda. Pour l'accueillir, il jonche l'allée de roses, de fleurs, et il engage des jeunes femmes pour jeter des roses sur le sentier qui mène à la maison où il va la recevoir. Donc il y a toutes sortes de rituels autour des amours du poète, puisque on l'appelle le poète.
Qu'il se fait appeler le poète et que tout le monde marche dans le coup.
C'est peut-être le dernier personnage, de même que Proust peut-être serait une sorte d'archétype de l'écrivain, Gabriel D'Annunzio serait peut-être une sorte d'archétype du poète.
Qui est acteur du monde en même temps que lecteur du monde, puisque... Non ?
Oui.
Il n'y a plus rien de bleu. Tout est sombre. Je me déshabille. Je rentre de ma course à cheval dans la lande. J'ai la chaleur de Célubeau sur mes bottes jaunes. Et des poils bais. Les muscles de la cuisse sont encore dolents et mes doigts aussi, faute d'entraînement. Cependant, il y a dans ma chair je ne sais quel bonheur contre mon âme angoissée. Toutes mes veines sont disposées à la volupté. Tout est souple en moi, souple et enlaçant. Quelque chose de félin. Mes yeux fendus laissent passer un regard chaud comme cet air que les dentistes soufflent sur la dent sensible. Il chauffe la lampe du bec de métal. Pourquoi elle? Pourquoi l'essence de sa vie? Pourquoi son rythme gouverne-t-il toutes les apparences dans la chambre close? Elle est dans l'eau qui remplit le tube, dans les gouttes de parfum, dans les plis du peignoir. À pourquoi elle me caresse dans cette brosse à la longue manche avec laquelle je frotte mes épaules et mes reins? Le matin, elle devait partir pour Saint-Moritz. Je déjeunais seul avec elle. Je crois que je l'aimais déjà. Sans doute, je la désirais comme toujours. Je lui avais apporté la longue brosse anglaise pour son bain. C'était une manière de la toucher de loin avec des doigts magiques. Le mari entra. La brosse enveloppée de papier était sur la tablette de la cheminée. Il la prit entre ses mains. J'avais en moi je ne sais quelle rougeur cuisante. Mais c'est aussi un personnage très moderne, puisqu'il a voulu, par l'esthétique qu'il a donnée au Victorial, cette maison qu'on peut toujours visiter, où se trouve son tombeau, un côté caravansérail invraisemblable, où, comme vous le savez, Jacques Donguy, les objets les plus rares sont jouxtes des copies de Michel-Ange de très mauvais goût, sur lesquelles il avait mis des peignoirs, par exemple, ou des écharpes.
Oui, on pourrait penser à la maison de Pierre-Louis, et autre caravansérail.
On pourrait penser aussi à ce que se fait aujourd'hui dans votre galerie, des actions, des performances, où des artistes cherchent à montrer comme ça le mixage entre le kitsch et puis une espèce de pensée. Nous sommes quand même à la fin d'un siècle ou au cinquième quart d'un siècle. Cinquième d'un siècle.
Oui, le côté fin de siècle. Et peut-être le problème de tous ces écrivains à l'aube de ce qui pourrait d'une certaine modernité très radicale, puisque enfin, les choses sont assez complexes, puisque le futurisme est quasiment contemporain de la fin de la vie de D'Annunzio. Donc les grandes ruptures et le projet moderniste, qui est un projet totalitaire en fait, un projet recherche de l'homme nouveau. Et, alors on pourrait se demander en quoi D'Annunzio est moderne peut-être. Et, il y a chez lui cette mélancolie fin de siècle. Comparé avec ce qui se passe aujourd'hui à la fin du XXe, peut-être dans ce goût du mixage, du patchwork, de l'hétéroclite. Sauf que, oui, peut-être aujourd'hui, une nouvelle esthétique du kitsch. À partir de cette multiplication d'images produites par les médias et cette espèce de musée ou en même temps de mnémothèque dans lequel on vit.
Photographie. D'Annunzio aux courses. Avec la duchesse Massari. Il a un petit chapeau blanc assez ridicule et la duchesse fait une bonne tête de plus que lui. Nicolas Le Scanf, vous préparez, vous avez déjà fait une grande série de planches sur Gabriel D'Annunzio. Je crois que vous êtes attaché beaucoup plus au côté vertigineux du personnage, c'est-à-dire la prise de Fiume, l'extravagance.
Pour moi, Gabriel D'Annunzio est un héros. Avant tout, je l'ai laissé tel quel. Je ne sais pas si le personnage lui-même, dont enfin on a peu parlé, s'est pris en tant que tel comme héros, mais surtout dans sa mégalomanie, et ça fait une bande dessinée, je pense. J'ai lu sa vie, je me suis épris de ses actes d'exception, qui tous sont des actes de littérature, mais transcendés. Alors, par exemple, puisque la bande dessinée est une fiction, eh bien, transportons-nous le 17 janvier, mais 1903, nous sommes à Rome. Nous sommes l'aube, très exactement, et dans les quartiers de la Piazza d'Espagne, alors que les petits métiers reprennent, un groupe de personnes se rencontre. Nous avons notamment le comte Plimolli et la comtesse Daniela Spizzi, qui se dirigent vers la maison du poète, déjà. Ils rentrent, on les installe, un majordome les installe dans un grand salon. Ils attendent, ils s'impatientent, ils discutent, et tout d'un coup, on annonce le poète. C'est-à-dire que le majordome fait coulisser une porte, le poète D'Annunzio apparaît et disparaît.
Vous ne faites donc votre bande dessinée que d'après des faits authentiques qui ont été authentifiés, c'est-à-dire que D'Annunzio, pour se déifier, D'Annunzio donc vivait comme un personnage chimérique. C'est ça.
Oui. C'est-à-dire, transporté par son siècle, il vivait ainsi. Je ne sais pas s'il était conscient, je le répète. C'est dit, je vous ai décrit là les trois premières pages de ma bande dessinée, sur laquelle je travaille depuis 3 ans, c'est-à-dire je me donne le temps quand même. Mais je suis de plus en plus séduit comme personnage du 9e art. Je pense, j'irais jusqu'à dire que Gabriel D'Annunzio colle à la bande dessinée comme les pieds nickelés collent au siècle, si je puis dire. Ils sont nés ensemble, mais l'un, le premier, le poète, est né dans les Abruzzes, d'où il est sorti. Et je transporte immédiatement l'action à la veille de la Première Guerre mondiale. Et c'est là où D'Annunzio, à mon sens, fait sa première action de à la fois de génie, et puis qui sort de l'ordinaire et qui le démarque de ses contemporains, des écrivains. Quand D'Annunzio se lance à l'assaut de Vienne avec son biplan d'enfer.
Photographie. D'Annunzio devant son biplan avec lequel il va survoler Vienne.
Lorsque D'Annunzio revient de Vienne, après avoir lancé des mots et criblé de balles, immédiatement, je compare l'action plus au colonel Bogdani attaquant les Japs plutôt qu'à un obscur William Faulkner, pilote de la DCA qui retournera à la YMCA, alors que D'Annunzio va aller arpenter avec ses talonnettes compensées les courses à Longchamp. Voilà, moi, où je vois un fantastique personnage de bande dessinée, un véritable héros, et ce jusqu'à la fin. Puisque D'Annunzio va mourir en pleine gloire, en 1938, ce qui est encore une chose exceptionnelle, surtout à cette époque, et va jusqu'au bout imposer, d'une façon dithyrambique, sa dictature des idées. je dis bien sa dictature des idées, qui est toujours passée inaperçue, puisque sous le couvert du fascisme italien, c'est Benito Mussolini qui va crier « ouf » applaudissant sa mort, mais l'histoire va prouver, quelques années plus tard, que ce n'était qu'un sursis, et que la dictature des armes avait perdu.
Gabriel D'Annunzio a écrit très curieusement dans son journal, à propos de Mussolini, « Je suis certain que ce personnage mourra pendu au crochet d'un boucher. » Curieuse prémonition. Et il faut dire aussi que D'Annunzio avait un secrétaire particulier, qui était bien entendu un espion de Mussolini, et que quand D'Annunzio est mort, l'espion a immédiatement envoyé un télégramme à Rome, et Mussolini a dit « enfin ».
Oui, enfin.
On voit quand même beaucoup de photographies de D'Annunzio avec Mussolini, D'Annunzio recevant Mussolini au Vittorial, et au Vittorial, D'Annunzio s'est permis toutes les excentricités, puisqu'il était l'écrivain national. Quand les gens venaient le voir, il leur proposait « voulez-vous que je fasse jouer du Wagner, ou préférez-vous que je fasse tirer au canon sur le lac ?» puisqu'il y avait cette proue de cuirassés montée dans un parc.
Et il est mort, ce Wagner, d'ailleurs.
Il est mort en écoutant du Wagner.
Dans une valse.
Jacques Donghi, vous disiez que D'Annunzio était le dernier avatar du romantisme.
Effectivement, par rapport à l'idéologie romantique telle qu'elle était vers 1800, 1780, et par rapport à ce qu'elle est, toute idéologie se dégrade, et se dégrade justement sous forme, par exemple, de bimbeloterie, d'objets, de fétiches, et peut-être on pourrait retrouver là le goût de D'Annunzio pour le bric-à-brac, mais qui est un goût d'ailleurs très 19e et très fin du 19e. On le retrouve aussi dans la maison de Victor Hugo à Guernesey. Par rapport peut-être à une modernité très design, très cette espèce de goût du vide et de la table rase. Et très curieusement, les idéologies se dégradent. On peut considérer le romantisme aussi comme une idéologie, et peut-être, et ça je ne suis pas le seul à le dire, peut-on considérer le personnage, par exemple, d'Hitler avec toutes ses grandes mises en scène, comme peut-être un des derniers avatars du héros romantique. Donc peut-être aussi, pourrait-on expliquer par là, disons, l'attirance ou la fascination de D'Annunzio pour le personnage de Mussolini, en tant que personnage.
L'attirance de D'Annunzio pour Mussolini, elle est très simple. C'est qu'à cette époque-là, D'Annunzio, qui était un personnage assez malingre et assez souffreteux, comme très curieusement beaucoup d'aventuriers,
c'est-à-dire pour se
géant. Ou comme Lord Byron, pour se prouver finalement à eux-mêmes qu'ils sont autant que les autres, était certainement très fasciné par la force physique que représentait Mussolini. Mais il a été très conscient, d'une part, parce qu'il était trop vieux quand Mussolini a fait la prise de pouvoir, et d'autre part, parce que c'est quand même un intellectuel, il a été parfaitement conscient que Mussolini lui enlevait la part de pouvoir qu'il pouvait, ou la part de pression qu'il pouvait faire sur la société italienne, et que la retraite dorée qu'on lui donnait n'était que ce qu'il pouvait obtenir, que le maximum que peut obtenir un artiste ou un acteur ou un écrivain. Il a très bien compris qu'il était mis à l'écart. Il en a d'ailleurs non pas souffert, mais il a ruminé la chose en comprenant que... parce que la différence entre Mussolini ou un personnage comme Hitler, c'est que ce sont des politiques, et que le politique, quel qu'il soit, est toujours un abruti qui ne pense qu'à l'action. Tandis qu'un aventurier, c'est quelqu'un qui ne fait une action que pour qu'il y ait derrière une sorte de méditation à propos de cette action. Je crois que D'Annunzio n'a pas échappé à la chose.
Oui, on pourrait comparer d'ailleurs les actes de guerriers de D'Annunzio, toute proportion gardée, par exemple, à l'escadrille qui avait monté Malraux pour la guerre d'Espagne, oui. Du point de vue stratégique et militaire, était très peu de choses.
Mais il était dans le sens de l'histoire.
Mais il était dans le sens de l'histoire, oui. C'est assez curieux d'ailleurs, cette fascination des... Ce serait peut-être une comparaison qu'on pourrait faire, justement, celle d'autres personnages. enfin, ce rapport de l'écrivain ou de l'intellectuel avec le politique.
Moi, je soulignerais une chose quand même, c'est que je vois dans les rapports d'Annunzio et Mussolini une symbiose absolument parfaite dans le sens de l'histoire. Je dis bien une symbiose absolument parfaite dans le sens de l'histoire, je le répète, hein, entre l'écrivain s'appuyant sur les idées et le syndicalisme s'appuyant sur les masses. Hein. C'est une opinion que je défends, qui me paraît évidente. Hein.
Mussolini avait besoin de troupes et de personnages un peu exaltés, hystériques, plus de quelques militaires en rupture de banc. Il les a trouvés parce que D'Annunzio les avait d'abord attirés dans une aventure. Mais
oui, D'Annunzio, ce qui lui plaisait...
Pas un des Arditi, qui était d'ailleurs trop vieux, qui avait l'âge de D'Annunzio, c'est-à-dire 50-55 ans, ne se sont trouvés être ensuite des hiérarques de la politique fasciste de Mussolini. Pas un seul. Ils sont tous retournés à leurs tristes occupations, à la collection de timbres. La différence, c'est que le politique est quelqu'un qui ne pense qu'à court terme, mais de petites choses. Enfin, il ne faut pas... N'importe quel politicien, enfin, il suffit... Je crois que... Ionesco a eu des mots superbes là-dessus, hein, qui sont définitifs, quoi. Le politique,
la prise
quel qu'il soit, Fiume, est toujours
une prise
un petit
de pouvoir génial, de type génial, d'accord. C'est aussi la prise d'un château de cartes. Hein.
Et vous comptez mettre, je crois, aussi des séquences dans votre bande dessinée sur Venise, un peu comme l'a fait Hugo Pratt, avec des choses sur Venise, où D'Annunzio a passé de longs séjours et est revenu très souvent à Venise, qui était un peu sa ville nutritionnelle. Il a passé des longs séjours avec la 12. Et puis vous connaissez bien sûr le fameux passage d'Hemingway sur D'Annunzio, où il parle longuement de D'Annunzio dans Par-delà les arbres. Par-delà le fleuve et sous les arbres. Et
cependant, en bande dessinée, je ne vais pas trop m'éterniser à Venise, puisque ça n'aura graphiquement rien d'exceptionnel, naturellement. Par contre, je décrirai beaucoup plus sa vie sentimentale, sa vie tendre, ses douces folies qui, à travers le parc de Bomarzo, ses hôtels en Europe, ses voyages fantastiques de Casanova littéraire, me paraissent plus intéressants à illustrer et surtout à faire vivre, car je suis quand même obligé de créer des histoires. Le témoignage ne suffit pas pour faire un scénario.
Fragment 126, D'Annunzio, 100 et 100 et 100 pages, du livre secret. Je suis sur le lit, la rude peau de bête, on me frotte avec un gant de crin et de la verveine brûlante. Mon cerveau est occupé par l'image voluptueuse, je suce son cou blanc et gracile avidement. Le sang est douceâtre, comme le sucre de certaines fleurs d'une plante épineuse, fleurs bleues à calice. Je l'ai détaché de la corolle quand j'étais enfant et je l'ai sucé soigneusement. Je songe à sa rose comme à je ne sais quelle chose, profondément cachée, hermétiquement secrète, comme à une autre bouche qui ne connaîtrait jamais le baiser. Je tremble, ma gorge est sèche, c'est comme l'image du viol. Pourquoi ? Un soir à Rome, elle était debout près de moi. Nous étions chez le vieux jeune Greppi, je crois, le charmant ambassadeur fardé. Elle avait une robe grise, d'un gris de perles noires. J'étais assis. Sa cuisse était à la hauteur de mes yeux. Elle ne semblait pas maigre. J'étais troublé jusqu'à la racine de mon être, mais lucide étaient mes ruses pour l'effleurer. Cette nuit, elle m'attend. Je suis arrivé le soir. Je prépare mon corps comme pour le tombeau, la dernière nuit de la vie. Il y a des parties de son propre corps qu'on oublie. On ne les sent pas vivre. Or, je sens vivre mon corps entier, de l'orteil au front, comme dans un battement de fièvre. Je suis dans la gondole. Je traverse le canal. Je m'approche du palais. Une pluie fine tombe en lueur de lune, voilée. L'odeur verte de la basse marée. Le clapotis de l'eau contre les marches. Je vois luire les dentelles d'or sur les vitres. Le tapis tigré descend dans l'eau. Quelque chose de blanc, de lunaire. Elle est là, avec ses dents éclatantes entre ses lèvres dures. Elle a son costume d'argent et de perles, le large pantalon argenté, le corsage de perles rangé, le casque splendide, la plume blanche, verticale. Je l'ouvre, je la couche, je la trouve agenouillée devant elle. Je trouve l'étoffe somptueuse et métallique, cette autre bouche sombre, elle est chaude, presque brûlante, tout à toi. Mon cœur s'arrête, je l'ai clouée dans le cercueil d'argent, le monde s'évanouit. Adieu gloire, adieu domination. Il écrit tout de même.
Oui.
Cette écriture est-elle d'aujourd'hui pour vous, Jacques Tanguy?
Ces pages, pour ces pages, certainement. Enfin, l'image que l'on peut en avoir à travers ces poésies, à travers, c'est plutôt une image symboliste. Ou...
Moi, j'aurais voulu savoir à quoi peut nous servir D'Annunzio aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous amène? Que nous amène D'Annunzio? Par la théâtralité, peut-être. Par exemple, je trouve que le fait qu'il met en cause la notion d'auteur. Il se pose en auteur. Un auteur traditionnel considère qu'il écrit, et puis ce sont les autres qui le transforment en auteur. Et lui se pose en auteur, au départ. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes d'avant-garde ou contemporains se pose au départ en auteur. Ce qui ne veut pas dire que c'est un bien ou un mal, mais c'est une façon de présenter le problème plus direct, plus hystérique peut-être, mais qui met en valeur les contradictions et les frictions de plus en plus grandes qu'il peut y avoir entre le public chargé de médias et l'artiste considérablement isolé.
Oui, à l'époque, la vie littéraire se passait dans les salons. Enfin, c'était un univers encore très, très proustien. Aujourd'hui, si elle se passe dans les médias, l'auteur ne peut pas avoir... Est-ce que c'est l'auteur qui passe au cours d'une émission de télévision
Photographie. Gabriel D'Annunzio, âgé, avec Italo Balbo. Le dernier repas, la figure de cire est là. On l'a transportée en bas dans la salle à manger, on l'a pliée, on l'a placée dans la chaise, à table, à la troisième place. On la sert, les mets fument devant elle, le verre est rempli. C'est le repas funèbre, le dernier, le repas de la mort amoureuse. Les fantaisies, l'étrange vie des choses, les saveurs, les fruits, les vins, l'ivresse qui augmente de coupe en coupe, le mousseux, le rose jaune dans le vase de verre long au subtil goulot. Avant le repas, on a habillé la figure de cire avec la même robe que porte la femme vivante. L'essayage de la robe chez Poiret, le jardin vert devant le vestibule, où des terrassiers creusent la terre devant le perron, les mannequins dans la première salle qui se promènent, la salle d'essayage, la glace menaçant d'apparition, les couturières en tunique de couleur nette, comme il doit quitter la salle parce qu'il va essayer le pantalon d'étoffe argenté, les larges baies mahométanes, il se retrouve dans la chambre voisine à raies rouges et blancs, estampe de mode 18e siècle aux parois. Il cherche, il découvre le trou de la serrure, il ose regarder, il voit la femme au bray. Il ressemble épouvantablement à la figure de cire. Elle n'est pas vivante, elle ne respire ni palpite. On entend les voix des fossoyeurs, des terrassiers qui creusent la terre du petit jardin vert à l'entrée. En haut de l'escalier, les couturières assemblées autour de la table travaillent et chuchotent. Il y en a qui montent et descendent, attentives, avec des vêtements délicats sur les bras qui se plient. Les robes promises pour le soir avant 7 heures sans doute, deux pareilles pour la cire et pour la chair, pour la vivante et pour la morte, les morceaux d'étoffe, les coupures, les rubans, sur le tapis de la salle tout autour, les hautes glaces mobiles, la personne reflétée innombrablement. Dans ce qui se passe dans l'avant-garde aujourd'hui, il y a par exemple une artiste comme Orlan qui, par un rituel de préparation, fait des choses un peu de ce type, puisque là, ce que décrit D'Annunzio, c'est qu'il faisait des dîners avec sa maîtresse, et pour ajouter un troisième personnage, il déguisait un personnage de cire qui était à la figure de sa maîtresse, de la même manière, en faisant faire deux robes chez Poiret, semblables, où il dînait à trois, ainsi, avec la figure de cire, sa maîtresse et lui-même.
Oui, on pourrait penser aussi à Molinier, avec la poupée... Lui-même se déguisant en femme et se faisant photographier avec une poupée, elle-même autre figure féminine. Enfin, donc, il y a deux, trois choses. Par exemple, sens de la mélancolie, qui est très fin 19e, sens de la mort, qui peut-être une chose qui nous échappe aujourd'hui, puisque ceci est une banalité. On fait tout pour occulter justement le... à travers une sorte d'idéal de la jeunesse, une sorte de... Je ne pense pas qu'aujourd'hui nous ayons tellement le sens de la mort dans la mesure où on fait tout pour l'occulter à travers les images des médias de la jeunesse, le fait qu'il faut être jeune.
Séquence. 8 décembre 1908. Je vous envoie 3 fleurs de jonquille, la première pour le sillon de tes épaules, la deuxième pour l'ombre de ta rose, la troisième pour que tu la trempes dans l'humidité de ta langue et me la renvoies. L'érotisme alors voisine avec le sublime et donc le ridicule aussi chez D'Annunzio. Dans beaucoup de performances actuelles, c'est ce qui se joue devant le petit public de l'avant-garde dans des galeries comme celles que vous animez.
Oui, disons qu'à travers sa vie, il recréait un certain nombre de rituels, mais je ne pense pas non plus qu'une relation amoureuse puisse se passer de ce genre de rituel. Chez D'Annunzio, les roses avaient beaucoup d'importance, puisque il jonchait le chemin, l'allée qui devait... dans la maison où il recevait sa maîtresse, pour la première fois, l'allée est jonchée de roses et les souvenirs sont des roses fanées entre deux vitres, par exemple. Et... rituel aussi. Mais je ne pense pas que la relation amoureuse puisse justement se passer de ces rites, de ces rituels. Et... très étonnant aussi le fait que pour lui, le lit soit, devienne un cercueil.
Oui. Il s'était fait faire un lit dont le haut était en forme de berceau et le bas en forme de cercueil. Il dormait dans ce lit, oui. Recouvert de daim violet. On voit ce lit en visitant le Vittorial. Jacques Donghy, est-ce que vous auriez aimé vivre comme Gabriel D'Annunzio?
C'était un aristocrate, donc il allait de...
Il se conduisait d'une manière aristocratique, parce que c'était un paysan des Abruzzes qui était parvenu.
Oui, avec des dettes. Il s'intéressait d'ailleurs, il dépensait peut-être plus d'argent avec ses chevaux et ses lévriers qu'avec ses maîtresses.
Et en fait, jamais rien eu à lui, parce que la villa où il vivait appartenait à l'État italien.
Il y avait aussi cette maison à Marina di Pisa, où il recevait ses maîtresses. Et chaque fois qu'il avait une aventure, elle se passait de... ça se passait à Milan, ça se passait dans des hôtels, à l'étranger, donc cours de voyage, bien entendu, puisque la plupart des femmes qu'il aimait étaient mariées.
Et le rapport entre D'Annunzio, et Marinetti, qui tous les deux étaient donc des écrivains italiens, des écrivains qui ont longtemps séjourné à Paris, qui ont la moitié de leur œuvre écrite en français, l'autre moitié en italien, et qui tous les deux, au moment du fascisme, n'ont pas su résister à cette pression et ont cru, je ne crois pas qu'ils ont cru que c'était le bon sens de l'histoire, mais par opportunisme, ils ont cédé. Quand même s'ils sont complètement opposés. L'un est un écrivain traditionnel, on peut dire réactionnaire, D'Annunzio. Marinetti est un écrivain très mécaniste qui poussait en avant et qui poussait à la modernité dans l'esprit du Bauhaus, etc. C'est quoi pour vous la différence? Ou alors est-ce que tout se mélange avec le temps?
Peut-être. Je lisais l'autre jour une interview de Ernst Jünger qui a plus de 80 ans et qui vit dans une petite ville, une petite bourgade en Allemagne. Et il y avait cette même distance, cette même mélancolie. Il parlait de ses collections de papillons et de... Et justement, lui aussi a été tenté par le... On l'a accusé à 20 ans d'avoir défendu le fascisme.
Enfin, Ernst Jünger, ne serait-ce que pour collectionner des papillons, a mené une vie et s'est retiré d'une manière quand même qu'on peut appeler petite bourgeoise, c'est-à-dire avec toute l'esthétique estrancinée, comme on dit dans le Sud, que ça représente. Tandis que D'Annunzio n'a jamais considéré que les objets lui appartenaient. Enfin, je crois qu'il y avait quand même une dimension un peu plus vaste chez D'Annunzio que chez Jünger.
Oui.
Nicolas Le Scanf, est-ce que vous auriez aimé vivre comme D'Annunzio?
Dans la mesure où D'Annunzio était un personnage un peu hors de son temps, sur son mode d'existence, oui. Maintenant, j'ai conscience que je ne suis pas un personnage fictif, hélas, peut-être, je ne sais pas. Je retiens, moi, une chose très importante chez lui, c'est un pouvoir d'exaltation hors du commun. Et... cette façon, cette notion de la mort qu'il avait dans le danger, justement, là où l'écrivain se dissolvait ou se perdait face à l'orateur, dans l'action précisément, cette façon qu'il a de porter l'action est à mon sens très moderne.
Aphorisme. Gabriel D'Annunzio. La violence est une imperfection de la charité, mais l'indifférence est la perfection de l'égoïsme. Photographie. Le vieux poète s'accorde une excursion sur le lac de Garde et va jusqu'à Vérone pour revoir l'église de San Zeno. Séquence. Tu as le visage qui sied à une femme pour cacher son âme. Laquelle? As-tu péché, quoique tu sois impeccable? Ah, si j'étais ton frère, si j'étais ton frère. Parfois il me semble qu'elle n'est qu'un écheveau de soie, un faisceau de fils mouillé de vie et embrouillé, et que je la dévide et que je la tisse suivant mon songe. Tu entendras mon cri avant le jour, là où mon baiser s'est nourri, la tache presque noire du suçon, tu ne peux plus l'effacer. La lampe est dans l'autre chambre, la lueur passe par la baie et se reflète dans la grande glace. Le reflet frappe le rideau, ainsi le rideau semble éclairé d'une façon magique. La figure de cire est là, debout, elle me regarde, ses yeux bougent comme des yeux de poupée mécanique. Si Corée était dans mon lit vivante, je sentirais la brûlure de son corps sec en regardant la figure de cire. Je suis une volupté inouïe. Souffre-t-elle d'un cœur bien né ou mal né? Ce soir-là, quand elle se laissait embrasser la poitrine nue, quand j'étais couché vers elle, comme un homme, toutes tes silences, j'ai écouté, j'ai longuement prêté l'oreille, je n'ai pas entendu le battement de son cœur, le moindre battement. Non, je ne suis pas vivante. J'ai peur de t'en sentir. J'ai peur de mes pensées qui se dressent tout à coup devant moi, étrangères, avec une stature, avec un regard, avec une haleine. Hélas, l'attendrissement vers le petit vase de céramique soutenu par un nœud où des prunes semblent blotties en tendresse. L'aspect lointain et funèbre de mes mains, l'intensité de leur expression comme des mains coupées, qu'on ne peut connaître que par leur caractère et non par leur rapport avec la personne, disparue sans doute, j'écris rapidement, comme en mon langage natal. Mais je regarde les déformations de l'esprit et de la sensibilité par ce langage étranger. Cette lucidité de l'ivresse, la quantité singulière de l'air entre mon œil et l'objet, quelque chose d'isolant, ces fleurs fanées, me semblent immortelles. La figure de cire, le meurtre, la cire est là. Quand je tue la femme vivante, je n'ai pas peur. Quand j'étrangle Corée, la cire est là. Identité du cadavre et de la figure toujours assise et habillée, de la robe pareille, tout à coup la figure se lève. La cire est vivante, comme si le souffle de la femme étranglée était passé dans le simulacre. Effrayant. Photographie. D'Annunzio avec Cicceri, commissaire aux affaires étrangères de l'Union soviétique, et avec Picard dans son ballon stratosphérique à Desenzano le 22 août 1932. Gabriele D'Annunzio, La pioggia nel pinetto. Taci sulle soglie del bosco, non odo parole che dici umane. Ma odo parole più nuove che parlano, gocciole e foglie lontane, ascolta piove dalla nuvole sparse, piove sulle tamerici salvastre.
Gabriele D'Annunzio, darse, la pluie sui pini, dans la pinède.
Scaldiosi e
tais-toi. À l'orée de la pinède, je n'entends plus les propos que tu tiens, mais les phrases plus expressives que disent les gouttes et les feuilles. Là-bas, écoute, la pluie croule, d'épais nuages, il pleut sur les tamaris qu'ont brûlé le ciel de la mer et le soleil, il pleut sur les pins aux vertes aiguilles hérissées, il pleut sur les myrtes divins, sur les genêts où s'écrasent des fleurs en grappes, sur les genévriers où s'entassent des baies odorantes, il pleut sur nos visages de sylphes, il pleut sur nos mains nues, sur nos vêtements minces, collés et transparents, comme les pensées nouvelles qui naissent de notre âme fraîche. Il pleut sur le poème qui t'a plu hier et qui me plaît aujourd'hui. Hermione, écoute, la pluie tombe sur la nature solitaire dans un crépitement permanent qui varie dans l'air de la pinède selon que les frondaisons sont plus serrées ou plus clairsemées. Écoute, l'écho à ces pleurs, c'est la stridence des cigales que les gémissements du vent austral n'effraient pas. Pas plus que ne les effraie la cendre des nuages dans le ciel, et le pin fait un son, le myrte un autre son, le genévrier un autre encore. Instrument multiple sous d'innombrables doigts, plongé dans l'esprit de la forêt, avec la vie des arbres ivres, ton visage est baigné de pluie comme une feuille, et tes cheveux en baume comme les genêts, toi qui t'appelles Hermione. Il pleut sur tes cils noirs, tant et si bien que tu pleures, dirait-on, mais de plaisir. Tu es non plus de chair, mais comme végétal. On te croirait jailli d'une écorce, et la vie tout entière est en nous, fraîcheur, odorante, et nos poitrines et nos cœurs sont comme intacts. Entre nos paupières, nos yeux sont comme des sources entre les herbes, dans leurs alvéoles, nos dents sont comme des amandes dures, et nous courons de fourrée en fourrée, nous tenant par le bras, ou bien disjoints, et la vigueur ressaisie des plantes drues
entrave nos chevilles, enlace nos genoux, et, tu sais, il pleut sur nos visages de sylphes, il pleut sur nos mains nues, sur nos vêtements minces, collés et transparents comme des pensées nouvelles, qui naissent de notre âme fraîche. Il pleut aussi sur le poème qui m'a plu hier et qui te plaît aujourd'hui. Hermione. Extrait d'un article paru dans Le Monde en octobre 1972 par Jean Franceschini. Le Vittorial degli Italiani, sur le bord du lac de Garde, c'est le logis cuissement se donne à des essaintes, la demeure où le prince déchu du crépuscule des dieux, des l'émir Bourges, entasse son fabuleux trésor. C'est aussi l'intimité d'une cocotte de gypse, dans la salle de bain, si encombrée qu'on y voit à peine le bidet et la baignoire bleue de nuit. Gigi s'arrête attendri devant la table de toilette. Le commandant était chauve, mais vous pouvez constater qu'il avait beaucoup de peigne. Rien que dans cette pièce, notre liste porte 2200 objets. On le croit volontiers. Quelle image voulait donc laisser à une postérité éblouie le petit homme grandiose qui dort à quelques mètres de son dernier sommeil, englué dans ce déferlement de choses belles, hideuses ou futiles? Son valet de chambre posthume n'en sait rien. Il tient tout en état et ouvre avec fierté le placard où pendent tant de costumes, les tiroirs où reposent les chemises Robespierre à peine jaunies. Le commandant peut revenir, il trouvera tout. Au mur, à l'endroit même où D'Annunzio un soir s'est abattu, foudroyé, le calendrier affiche toujours la date fatale, 1er mars 1938. Dans le bureau de travail, seule pièce vaste et point trop obscure, le visage tragique de la douze est marqué par le foulard que le maître enlevé pour écrire sous son regard. Sur la table de la salle à manger, là où Mussolini prit place, une tortue est coulée dans le bronze. Le poète a voulu qu'elle fût éternisée le jour où elle mourut d'avoir mangé des tubéreuses, figé les formes. De ce musée fascinant et dérisoire sourd une grandeur amère. Par sa démesure même, ce paradis de confection donne un vertige. Ici, un écrivain a voulu clore ses fantasmes, a jamais encloué son âme, oublier les prétentions métaphysiques du Pécuchet en délire qui a installé ici une échelle des religions où le Christ domine les éléphants de Bouddha et les chats de Mahomet, oublier l'homme qui, dans ce parc, expliquait à Cécile Sorel comment il entrait en contact en mordant dans une grenade avec l'âme de la douze. Que reste-t-il donc de vous, monsieur D'Annunzio, qui vouliez tant rester? Des images admirables, palais baroque encore debout dans votre œuvre en ruine, et ce Vittorial, voie lactée d'insignifiance, bric-à-brac immortel, cerné par le néant. Gabriel D'Annunzio avec Arthur Hubschmidt, Jacques Donguy, Nicolas Le Scanf, des textes extraits de 100 et 100 et 100 pages du livre secret de Gabriel D'Annunzio, édition Mondadori 1934, le poème « La pluie sous la pinède » paru dans la revue Dox décembre 1982, un extrait du texte de Jean Franceschini paru dans Le Monde en octobre 1972, Nuit magnétique, Agnès Boissonnade, Olivier Berotte, Pamela Dousseau, Jean-François Bory. Bonsoir.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 2 février 1983. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.